Portefeuille se fit étiqueter par le père Marie-Dominique Philippe le 12 juin 2001 à Saint-Jotard.
C'est sans doute le dernier cours de l'année. C'est avec les examens. Il y a un problème sur lequel c'est important de revenir. C'est ce problème de la consécration du célibat. Consécration à Dieu. Ça va avec la tempérance. Et ça va avec la chasteté parfaite. Donc c'est dans la ligne de cette vertu. Et évidemment, directement dans la lumière des vertus théologales, de la contemplation. La remarque de saint Thomas, je crois, est très importante là-dessus. Quand il nous dit, nous ne pouvons garder une chasteté parfaite que par la contemplation. Parce que c'est la contemplation qui nous unit au Christ, qui nous unit à la très sainte Trinité, qui peut nous donner cette force qui dépasse toutes les tentations, qui dépasse toutes les passions, parce que la difficulté pour garder la chasteté parfaite pour des apôtres, c'est le milieu ambiant qui, évidemment, ne favorise pas du tout la chasteté parfaite. Et aussi nos passions, notre sensibilité, qui est particulièrement mise à l'épreuve dans un climat comme le nôtre. C'est-à-dire, vous comprenez, les barrières sociales n'existent plus, pratiquement. Et par le fait même, la sensibilité liée à l'imagination peut s'exercer d'une façon beaucoup plus libre dans une société comme la nôtre, où il n'y a plus des cadres solides comme il y avait avant. Il y a une liberté beaucoup plus grande. Alors cette liberté, elle est dans tous les sens. Il est beaucoup plus facile aujourd'hui d'avoir des glissades, des éparpillements et par le fait même des manques à notre chasteté, des manques au célibat. De sorte que la remarque de saint Thomas, qui était déjà vraie au Moyen-Âge, est beaucoup plus vraie pour nous. C'est que dès que notre ferveur contemplative disparaît, et elle est difficile à maintenir, souvent, cette ferveur contemplative doit exister partout où nous sommes, même et surtout dans les petits prieurés. Alors ici, nous regardons la chose en elle-même, ne voyons pas tout ce contexte, mais c'est très important de se le rappeler, ça, que la vie chrétienne va impliquer la vie religieuse. Et vous savez qu'aujourd'hui, la vie religieuse est mise pratiquement... Elle est mise où on tend à la mettre comme une secte. C'est tout à fait différent quant à la finalité. Mais pour comprendre la finalité de la vie religieuse, il faut la vivre. Quand on ne la vit pas, on la regarde de l'extérieur, la finalité est quelque chose qui ne peut se comprendre que de l'intérieur. Autrement, c'est la loi. La finalité se comprend de l'intérieur par l'amour. Et l'amour se comprend de l'intérieur. C'est rien de plus intérieur que l'amour. Et la conséquence de l'amour, l'intention, notre vie, vue de l'extérieur, les sectes et la vie religieuse peuvent paraître les mêmes choses. Vu de l'extérieur, hein, comprenez bien, c'est une communauté dans la communauté. Une communauté politique, qu'une politique purement païenne, purement laïque. Et une communauté religieuse se différencie en premier lieu par la finalité. Et tout dépend de cela, donc de notre vie contemplative. Autrement, il est facile de considérer que la vie religieuse supprime la liberté, puisque la vie religieuse implique le vœu d'obéissance. Un homme marié ne fait pas vœu d'obéissance à son épouse. On obéit comme on peut. Mais ne fait pas vœu d'obéissance. Le vœu d'obéissance vu de l'extérieur maintient dans une soumission inadmissible. Je crois qu'on pourrait justifier la vie religieuse par la vertu morale de religion. Parce que la vertu de religion implique l'adoration, et par l'adoration, on peut justifier la consécration à Dieu. Beaucoup de vies religieuses anciennes reposaient uniquement sur l'adoration. Pour nous, notre vie religieuse chrétienne repose sur le mystère du Christ. Et donc, le mystère du Christ, c'est un mystère d'amitié avec le Père, un mystère de fils à l'égard du Père, de filiation. Et c'est là la très grosse différence avec les sectes. L'attitude d'une petite Thérèse annonçant la voie étroite, la petite voie, ne peut se comprendre que dans la lumière d'une filiation à l'égard le Père. Autrement, c'est de l'infantilisme, autrement, c'est l'esclavage. De sorte que c'est très vrai, il faut bien reconnaître que la grande différence entre le point de vue religieux et le point de vue de la secte, c'est le point de vue de la finalité. La différence entre le gourou et le père spirituel ou la mère spirituelle, c'est que leur autorité sont maternelles et paternelles et ne sont pas tyranniques. Mais vu de l'extérieur, sans voir la finalité, c'est très facile de ramener la vie religieuse à une secte pas trop rigoureuse, donc assez docile, assez douce, mais quand même une espèce de maintien qui est religieux dans un carré romain, dans une vie austère, avec la clôture. Ça avait beaucoup plus l'air de saint, du reste, quand la clôture était papale, et quand elle est papale, encore pour certains religieux, où farouchement, on coupe complètement de l'extérieur, même des parents. Alors les parents, forts de leurs droits, peuvent réclamer et réclament, puisque ils se forment, même aujourd'hui, la défense des parents contre les enfants entrés en religion. Les parents qui comprennent évidemment la sphère chrétiennement, mais les parents non chrétiens, communistes ou autres, voulant vivre une liberté absolue pour eux et pour leurs enfants, condamnent toute espèce de vie religieuse comme étant des assemblées humaines très semblables aux sectes. Je crois vraiment que c'est la cause finale qui peut seule montrer la définition. Alors on peut dire aussi, mais c'est très difficile à prouver, qu'on est là librement. Et dans les sectes aussi, au point de départ, ils sont là librement. Ils sont là librement parce qu'ils ont peur qu'on les châtie. Alors c'est beaucoup plus difficile à prouver. Si quand on dit qu'on est là librement, est-ce une vraie liberté ou est-ce que c'est une liberté qui existe dans les sectes? Alors, il y a un très gros problème qui va se poser et qui se pose actuellement. Alors il faut que nous le comprenions très bien que suivre Jésus, c'est Jésus lui-même qui nous le montre. Suis-moi. Mets tes pas derrière les miens. Et que la vie religieuse a existé en vue d'imiter plus profondément le Christ. Et voyez, nous, le Christ, il est Dieu. Porter quelqu'un d'athée, c'est un chef de troupe continue. C'est ça qui est curieux. Parce que normalement, ça passe. Et là, ça continue. Jésus peut réclamer de nous la consécration de notre corps, la consécration de tout notre être. Peut, en raison d'une contemplation, réclamer de nous le sébat. Il faut bien voir que l'obligation de se marier, le droit au mariage et l'obligation d'avoir une famille, c'est une obligation humaine. Il faut voir qui peut nous libérer de cette obligation. En dehors de Dieu, en dehors de la vie religieuse, quoi. En dehors de la consécration au Christ. Est-ce que l'art peut être un motif suffisant pour garder le célibat? Je pose des problèmes, hein, parce que c'est pas toujours facile à résoudre. Mais il faut au moins se les poser. Est-ce que l'art peut légitimement permettre à une jeune fille ou un jeune homme de s'adonner entièrement à cet art? Donc, ne pas avoir d'enfant. Est-ce que la science peut permettre ça? Est-ce que l'amitié humaine peut permettre ça? Je crois que seule la contemplation divine permet et légitime d'offrir son corps à Dieu, de le consacrer. Cette forme de contemplation prendra des formes très différentes, communautairement ou seule, dans la solitude. Mais c'est la consécration au Christ qui permet le célibat. La science est pour l'homme et donc elle ne peut pas me donner le droit de vivre seul. L'art également, c'est pour l'homme, pour permettre à l'homme d'être plus lui-même. Et l'amitié également, elle reste humaine. Je crois que seule la contemplation à Dieu, la consécration à Dieu, par la vertu de religion, permet à l'homme de faire le sacrifice de la famille, le sacrifice d'une chasteté parfaite et d'un célibat parfait. C'est la contemplation à l'égard de Dieu par Jésus. Et c'est tout à fait propre à la vie chrétienne. Il y a des consécrations à Dieu par point de vue humain, un péché empêcher quelqu'un de, pour se marier, ne peut se faire que légitimement que par la consécration à Dieu. Le point de vue de la procréation a un tel poids, une telle valeur, que seule cette consécration à Dieu peut lui permettre d'être vrai, parce qu'on a tout donné à Dieu. Et on lui a offert son propre, notre propre corps comme victime, comme offrande d'amour. De fait, ce qui existe, c'est ce qu'on voit. Quelquefois, vous voyez des gens qui ne se sont pas mariés pour leur art. Et très souvent, ça ne finit pas bien. Est-ce que vous avez le devoir de dire que l'art ne peut pas nous empêcher ? Je crois que c'est toujours un problème personnel. Il ne s'agit pas de dire à quelqu'un « Vous êtes obligé de vous marier ». Parce qu'il faut encore trouver quelqu'un. Et si, pour une raison ou pour une autre, la jeune fille ne trouve personne à qui se marier, et l'homme également, vous voyez, c'est comme un célibat forcé. Il n'est pas consacré, alors vous le subissez. Ça ne fait pas partie de l'éthique chrétienne. Je crois qu'il faut être très net là-dessus, parce que le mariage et la famille est une chose tellement grande que seule la contemplation à l'égard de Dieu peut me dispenser. Et quand cette contemplation diminue, on voit très bien qu'on perd pied. Et on quitte la vie religieuse, ou on quitte le célibat promis, parce que la contemplation n'est pas ardente, n'est pas présente. Vous voyez ? Et ça, je crois que c'est très important de se le dire. Quand on se consacre à Dieu, corps et âme, avec le désir de garder une chasteté parfaite, donc avec le désir que les vertus théologales l'emportent sur nos passions, seule la contemplation en acte présente peut me donner la force d'être fidèle. Et que cette offrande se fasse dans la joie, parce qu'elle se fait pour glorifier Dieu. En justice originelle, il semble bien qu'il n'y aurait pas eu la vie religieuse. Il n'y aurait pas eu cette consécration. Parce qu'il y avait une harmonie parfaite entre le point de vue de la sensibilité et le point de vue de l'intelligence qui découvre Dieu. Donc, c'est tout à fait typique à la vie chrétienne, la vie religieuse. Et ça manifeste comment les vertus théologales peuvent avoir une exigence telle que notre corps se consacre à Dieu tout entier. Mais la vertu de tempérance chrétienne peut avoir concrètement. Oui, ça fait comprendre le mystère de la croix. On s'offre en victime d'amour à Jésus pour glorifier le Père. Avec Jésus pour glorifier le Père. Et pour porter pour tous les pécheurs. Charité fraternelle. Et cette charité fraternelle ne pourra aller jusqu'au bout de ses exigences que s'il y a une charité contemplative à l'égard de Dieu. Uniquement une vie active de dévouement ne justifie pas d'éviter la famille. Vivre ensemble, à deux, pour comprendre cela. Autrement, c'est très difficile à le faire comprendre. C'est là où on touche le martyr non sanglant, puisque on offre sa vie à Dieu. Et c'est bien ça, le martyr, c'est la vie à Dieu. Donc, c'est la vertu de tempérance et la vertu de force qui sont engagées dans la consécration totale à Dieu, dans les vœux. Et c'est bon de le regarder dans cette lumière, de comprendre l'éthique chrétienne. Et la vie religieuse fait partie de l'éthique chrétienne. La consécration à Dieu fait partie de l'éthique chrétienne. Pour être la consécration des vierges, et la vie religieuse. Et ça ne peut se vivre, la consécration des vierges, que par la vie contemplative. Ça, c'est un problème qui se pose aujourd'hui, il faut bien le dire, hein, parce que on peut être dans un emballement. Une jeune fille se consacre à Dieu, elle est prise par le mouvement du monde, et ça ne peut pas tenir si elle n'a pas une vie contemplative. Donc, le problème aujourd'hui se repose avec beaucoup d'acuité par la vie religieuse et la vie religieuse communauté. Je crois que ça, c'est les deux extrêmes de la vie chrétienne, le martyr sanglant et le martyr non sanglant. Et on voit très bien que c'est le mystère de Marie qui est là, présent, qui montre comment dans notre vie cela peut, dans la vie chrétienne, cela peut et doit se réaliser. Au fond, la grâce arrive à transformer le régime des vertus morales en mettant une exigence qui provient de la vie contemplative. La vie morale elle-même ne justifierait pas cela.